Le traité de Mantes.
Où sommes-nous? Avons-nous passé Mortemart? Pas encore? Eh bien, j'ai dormi un petit, ce me semble. Oh, comme le ciel s'assombrit et comme les jours raccourcissent. Je rêvais, voyez-vous, mon neveu, je rêvais d'un prunier en fleurs, un gros prunier, tout blanc, tout rond, tout empli d'oiseaux, comme si chaque fleur chantait. Et le ciel était bleu, pareil au tapis de la Vierge, une vision angélique, un vrai coin du paradis. L'étrange chose que les rêves. Avez-vous remarqué que dans les évangiles, il n'y a point de rêve relaté, à part celui de Joseph au début de saint Matthieu, c'est le seul. Alors que dans l'Ancien Testament, les patriarches ont sans cesse des songes. Dans le Nouveau, on ne rêve point. Je me suis souvent demandé pourquoi, sans pouvoir répondre. Cela ne vous avait pas frappé? C'est que vous n'êtes pas grand lecteur des Saintes Écritures, Archambault. Je vois là un bon sujet pour nos savants docteurs de Paris ou d'Oxford de disputer entre eux et de nous fournir de gros traités et discours en un latin si épais que personne n'y entendrait plus goutte. En tout cas, le Saint-Esprit m'a bien inspiré de faire l'écart par la Péruse. Vous avez vu ces bons frères bénédictins qui voulaient prendre avantage de la chevauchée anglaise pour ne point payer les commandes du prieur? Je leur ferai remplacer la croix d'émail et les trois calices de vermeil qu'ils se sont hâtés d'offrir aux Anglais pour être saufs du pillage, et ils solderont leurs annuités. Ils cherchaient tout benoîtement à se faire confondre avec les gens de l'autre rive de la Vienne, où les routiers du prince de Galles ont vraiment tout ravagé, pillé, grillé, comme nous l'avons bien vu ce matin, à Chirac ou à Saint-Maurice-des-Lions, et surtout à l'abbaye de Léther, où les chanoines réguliers se sont montrés vaillants. Notre abbaye est fortifiée, nous la défendrons. Et ils se sont battus, ces chanoines, en hommes bons et braves, que l'on ne contraint pas. Plusieurs ont péri dans l'affaire, qui se sont conduits plus noblement que l'ont fait à Poitiers, main chevalier de ma connaissance. Si tous les gens de France avaient autant de cœur. Encore ont-ils trouvé moyen, ces honnêtes chanoines, dans leur couvent tout calciné, de nous offrir dîners si plantureux, si bien apprêtés qu'ils m'apportaient au sommeil. Et avez-vous noté cet air de sainte gaieté qu'ils arboraient sur leur visage? Nos frères ont été tués, ils sont en paix, Dieu les a accueillis dans sa mansuétude. Il nous a laissés sur la terre, c'est pour que nous puissions y faire bonne œuvre. Notre couvent est à demi détruit, voilà l'occasion de le refaire plus beau. Les bons religieux sont gais, mon neveu, sachez-le. Je me méfie des trop sévères jeûneurs à mine longue, avec des yeux brûlants et rapprochés, comme s'ils avaient trop longtemps louché du côté de l'enfer. Ceux à qui Dieu fait le plus haut honneur qui soit en les appelant à son service ont une manière d'obligation de s'en montrer joyeux. C'est un exemple et une politesse qu'ils doivent aux autres mortels. De même que les rois, puisque Dieu les a élevés au-dessus de tous les autres hommes, ont devoir de montrer toujours empire sur eux-mêmes. Messire Philippe le Bel, qui était un parangon de vraie majesté, condamnait sans qu'on lui vît de colère, et il portait le deuil sans larmes. Dans l'occasion du meurtre de Monsieur d'Espagne, que je vous contais hier, le roi Jean fit bien apparaître, et de la plus pitoyable façon, qu'il était incapable d'imposer retenue à ses passions. La pitié n'est pas ce qu'un roi doit inspirer. Mieux vaut qu'on le croie fermé à la douleur. Pendant 4 jours, le nôtre fut dans l'empêchement de prononcer un seul mot, et de dire même s'il voulait manger ou boire. Il errait dans les chambres, l'œil tout rouge et noyé, ne reconnaissant personne, et s'arrêtant soudain pour sangloter. Il était vain de lui parler d'aucune affaire. L'ennemi eût-il envahi son palais qu'il se fût laissé prendre par la main. Il n'avait pas montré le quart de chagrin lorsqu'était morte la mère de ses enfants, Madame de Luxembourg, ce que le dauphin Charles ne manqua point de relever. Ce fut même la première fois où on le vit marquer du mépris pour son père, allant jusqu'à lui dire qu'il n'était pas décent de s'abandonner ainsi. Mais le roi n'entendait rien. Il ne sortit de son abattement que pour hurler, hurler, qu'on lui scellât scellant son destrier, hurler qu'on rassemblât l'ost, hurler qu'il courait à Évreux faire justice, et que chacun aurait à trembler. Ses familiers eurent grand-peine à le ramener à la raison et à lui représenter que pour rassembler l'ost, même sans l'arrière-ban, il ne fallait pas moins d'un mois. Que s'il voulait attaquer Évreux, il mettrait la Normandie en dissension. Que d'autre part, les trêves avec le roi d'Angleterre venaient à expiration et que s'il prenait à ce dernier l'envie de profiter du désordre, le royaume pourrait se trouver en péril. On lui remontra aussi que peut-être, s'il avait respecté le contrat de mariage de sa fille et tenu son engagement de remettre Angoulême à Charles de Navarre, au lieu d'en faire don à son cher connétable, Jean II ouvrait les bras et clamait « Que suis-je donc si je ne puis rien ? Je vois bien qu'aucun de vous ne m'aime et que j'ai perdu mon soutien. » Mais enfin, il resta en son hôtel, jurant Dieu que jamais il ne connaîtrait joie jusqu'à ce qu'il fût vengé. Cependant, Charles le Mauvais ne demeurait pas inactif. Il écrivait au pape. Il écrivait à l'empereur, il écrivait à tous les princes chrétiens, leur expliquant qu'il n'avait pas voulu la mort de Charles d'Espagne, mais seulement s'en saisir pour les nuisances et outrages qu'il avait souffert de lui, qu'on avait outrepassé ses ordres, mais qu'il prenait tout à son compte et couvrait ses parents, amis et serviteurs, qui n'avaient été mus dans le tumulte de l'aigle que par un trop grand zèle pour son bien. Il se donnait ainsi, ayant monté le guet-apens comme un truand de grand chemin, les gants du chevalier. Et surtout, il écrivait au duc de Lancastre, qui se trouvait à Malines, et au roi d'Angleterre lui-même. Nous eûmes connaissance de la teneur de ses lettres quand les choses s'embrouillèrent. Le mauvais n'y allait pas par détour. Si vous mandez à vos capitaines de Bretagne qu'ils soient prêts, sitôt que j'enverrai vers eux à entrer en Normandie, je leur baillerai bonne et sûre entrée. Veuillez savoir, très cher cousin, que tous les nobles de Normandie sont avec moi à mort et à vie. Par le meurtre de Monsieur d'Espagne, notre homme s'était mis en rébellion. À présent, il progressait en trahison. Mais en même temps, il lançait sur le roi Jean les dames de Melun. Vous ne savez pas qui l'on nomme ainsi. Ah ! Voilà qu'il pleut. Il fallait s'y attendre. Cette pluie menaçait depuis le départ. C'est maintenant que vous allez bénir ma litière, Archambault, plutôt que d'avoir l'eau vous coulant dans le col sous votre cotte hardie et la boue vous crottant jusqu'aux reins.